Avec l'aide du Seigneur, très simplement, j'ai donné ce thème à la méditation de ce matin, la marche du chrétien. Voilà, pendant ce temps, vous avez certainement trouvé Luc dans le Nouveau Testament. Si ça peut vous aider, eh bien, c'est après Matthieu, Marc, Luc et avant Jean. Voilà. Je lis donc ces paroles qui sont des paroles du Seigneur Jésus. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Tout homme qui vient à moi, permettez-moi de rajouter toute femme, entend mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison, sans être capable de l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est rué contre elle. J'ai du mal à lire, excusez. Un fondement. Le torrent s'est rué contre elle. Aussitôt, elle s'est écroulée et la ruine de cette maison a été grande. Quel merveilleux enseignement du Seigneur Jésus. Et comme vous l'avez compris, cela concerne les enfants de Dieu, mais également toute créature, puisque le Seigneur est en train de rappeler à ses disciples, à ceux qui le suivaient, que tout enfant de Dieu doit bâtir sur le roc. Et bâtir sur le roc, c'est bâtir sur la personne de Jésus-Christ, mais c'est bâtir sur l'enseignement que Jésus donne. C'est pour cela qu'il est parlé et que Jésus parle de mettre en pratique. Mais en même temps, il dira aussi, si on ne met pas en pratique, quoi ? Son enseignement. Je voudrais lire avec vous également quelques versets dans le livre de Job, donc c'est dans l'Ancien Testament. Et là, je voudrais m'arrêter à ces paroles que Job a exprimées et qui nous démontrent un petit peu, je dirais entre guillemets, la vraie marche du chrétien. Donc Job au chapitre 23 et au verset 11. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour trouver le texte. Job 23, 11, et il est dit ceci. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voix et je n'en ai pas dévié. Je n'ai pas altéré les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Amen. Ne pensez-vous pas, frères et sœurs, que nous devrions avoir les mêmes expressions dans notre bouche, dans notre pensée et dans nos agissements. Job n'a pas dévié de la voie, et on pourrait dire de la voie qu'il avait prise, puisque Job avait toute confiance en Dieu. Et là, je ne vais pas rentrer trop dans la vie de Job, mais pour la plupart, vous savez que Job a été mis à l'épreuve et que dans l'épreuve, dans les terribles épreuves qui se sont succédées, nous pouvons dire en toute simplicité et vérité, il n'a pas dévié de la voie qu'il avait choisie, c'est-à-dire d'être en relation avec Dieu et d'être soumis à Dieu, quels que soient les temps et les circonstances. Et nous comprenons parfaitement sa pensée par l'expression qu'il a lui-même donnée en disant à son épouse, nous avons reçu de Dieu ce qui est bon, nous pouvons aussi recevoir, dois-je dire le mot, je vais le dire, ce qui est mauvais. Ainsi, nous comprenons cette parole que Job a soumis sa vie, son avenir, à la volonté de Dieu, quel que soit ce que Dieu lui demande, ou quelles que soient les épreuves par lesquelles il faut ou il faudra passer. Soumis à la volonté de Dieu. Parfois, la volonté de Dieu, elle est difficile à accepter. Mais il faut savoir que pour tout enfant de Dieu, pour tout chrétien, la finalité de la volonté de Dieu, c'est de nous sauver pour l'éternité. Le chemin est parfois dur et difficile. Je dirais aussi qu'on ne comprend pas toujours la volonté de Dieu. Et notre pensée doit être ceci, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. C'est dur, mais je sais que tu es avec moi. En fait, le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus, nous lui avons donné avec confiance. Et nous lui avons donné notre vie pour un salut éternel. Maintenant, le jour où nous nous sommes engagés, nous nous sommes engagés à vivre pour lui plaire. Oui ou non ? Enfin, je pense que nous ne sommes pas engagés pour dire « Seigneur, je te donne ma vie pour que j'aie une réussite sociale, matérielle, etc. » Non, je me suis engagé pour te suivre, pour t'aimer, pour te servir et pour obtenir avec ta grâce la promesse, celle d'entrer un jour dans le ciel de gloire et de demeurer pour toujours avec toi. Et moi, je vais vous dire simplement ce matin, merci Seigneur, je parle pour moi, mais peut-être vous pourrez adhérer à cette pensée. Je dis merci Seigneur de ce que le jour où j'ai donné ma vie, c'est pas hier, j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 15 ans, donc maintenant j'en ai beaucoup plus. Mais si j'avais su par quel chemin j'aurais dû passer, les temps difficiles que l'on peut connaître, peut-être, excusez l'image que je vais donner, j'aurais peut-être pas signé. Mais je me suis engagé pour l'aimer, le suivre, le servir, en lui faisant pleinement confiance. Et je peux dire que malgré les épreuves, les tempêtes et les difficultés, Dieu a toujours été présent. Alléluia. Dieu a eu des temps difficiles. Mais la gloire de Dieu s'est toujours manifestée. Alléluia. Alors le chrétien, la Bible nous le dit, doit vivre et doit marcher par la foi. Mais en réalisant les paroles de Job, je pensais un petit peu que ce que Job a exprimé, ce sont en fait, et nous sommes dans une région où vous allez, je pense, me comprendre, nous sommes placés devant des conseils que Job a expérimentés, mais je retrouve que ces conseils sont donnés par tout guide de montagne. Alors, je suppose que peut-être parmi vous, certains ont fait de la randonnée, et que ce soit de la basse montagne ou de la haute montagne, lorsque nous demandons à un guide, parce que nous ne connaissons pas le chemin, savons qu'il y a un départ, il y a un but, c'est d'arriver au sommet de la montagne, quelle que soit la hauteur de cette montagne, c'est le désir d'arriver en haut. Tout guide sérieux va nous donner, je dirais, des conseils. Et nous avons raison, et vous avez raison, si un jour vous partez faire une longue randonnée, une journée de randonnée, ou peut-être plusieurs jours, de prendre un guide. Et un guide qui connaît, excusez-là aussi le mot, je vais dire son affaire. Et c'est sa responsabilité de dire aux gens comment ils doivent marcher, comment ils doivent s'y prendre. D'autant plus que ce guide connaît le bon chemin, il connaît les dangers, les pièges qui sont sur le chemin, pièges que l'on peut rencontrer et qu'on n'est pas peut-être capable de passer ou surpasser si nous n'avons pas un guide pour nous conseiller et passer sur ces pièges et sur ces difficultés. Il a aussi la connaissance du terrain. Il a aussi le regard pour apprécier le taux du danger et la capacité de pouvoir donner les conseils pour éviter le problème ou les problèmes qui se présentent devant les randonneurs. Parce qu'une randonnée, c'est pas toujours de tout plaisir. Hein ? Moi, dans ma jeunesse, j'ai fait quelques randonnées en une journée, montées sur des sommets. Avec des gens aguerris, accompagnés, c'était pendant des camps de jeunes. On part toujours guilleré, mais on arrive au sommet avec moins de joie, parce que beaucoup fatigués. Et heureusement qu'il y a des gens pour nous aider, et pour justement passer les difficultés que l'on peut rencontrer, et quelqu'un qui connaît le chemin pour arriver au sommet en bonne condition. Et bien sûr que vous comprenez là ce matin que le Seigneur est en train de parler à notre cœur et de nous dire simplement, mais tu sais, pour arriver dans le ciel, tu as besoin d'un guide. Parce que le chemin est difficile. À partir du jour où nous nous engageons avec le Seigneur jusqu'au jour où nous arriverons dans la gloire, nous avons besoin de ce guide. Et nous comprenons pourquoi le Seigneur Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais lui seul connaît le chemin qui mène à la vie. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous avons besoin de comprendre que nous sommes placés sur un chemin et plus nous avançons sur ce chemin, excusez-moi de vous dire cela, mais c'est une réalité, le chemin devient de plus en plus difficile. Parce que nous avons un adversaire qui veut nous faire décrocher de la présence de Jésus. Quand on part en randonnée, c'est toujours facile. Je me suis rappelé en méditant qu'on partait d'une grande prairie, on commençait à gravir et plus on montait, plus le chemin se rétrécissait. Et plus ça devenait difficile parce que de plus en plus ça montait. Moi, je suis heureux de faire partie de la Pentecôte. Mais je réalise toujours quand je dis Pentecôte que c'est un mot qui est composé de deux mots en fait. Vous avez la pente et vous avez la côte. J'espère que vous avez la côte au sens propre et au sens figuré. La côte pour arriver au ciel et la côte auprès du Seigneur parce que vous devez vivre d'une manière qui lui soit agréable. Dites pas tous amen. Alléluia. Le Seigneur sera toujours ce guide fidèle. Par contre, quand je regarde encore un petit peu ce qui se passe autour de nous, quand la randonnée commence à être difficile, alors le guide va dire, quand on est plusieurs, il va dire qu'il faut s'encorder. Vous connaissez ça ? S'encorder. Alors, par sécurité, on encorde 2 à 3 personnes maximum. Pourquoi s'encorder ? C'est un lien qui va permettre, si jamais il y a une difficulté, si jamais il y en a un qui tombe, quelqu'un qui comme on dit, pourrait dévisser, eh bien les deux autres seront là pour faire contrepoids et pour éviter que celui qui est au bout de la corde, hein, le collègue, l'ami qui est au bout de la corde, ne tombe beaucoup plus bas et que cet incident devienne grave. Alors, quand on est tous ensemble ce matin, et que nous avons tous le même guide, que nous sommes tous le même chemin, eh bien, il y a quand même quelque chose qu'il faut réaliser, frères et sœurs, c'est que nous sommes liés les uns avec les autres. Et le lien qui nous unit, ce n'est pas une corde qui pourrait être salutaire et qui est parfois salutaire dans les accidents de montagne, mais le lien qui nous unit les uns aux autres, c'est un lien d'amour. Et ce lien d'amour passe par un nom, c'est le nom de Jésus, qui nous a unis les uns aux autres. Et en réalisant que nous sommes unis les uns aux autres, nous devons aussi prendre conscience ce que dit l'apôtre Paul, que nous devons prendre soin les uns des autres. Alléluia. Alors, quand j'écoute et quand je lis, je m'aperçois qu'il est écrit dans la Bible, bien sûr, qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 12, verset 2, « Gardons les yeux fixés sur Jésus, le divin guide. Dans cette course de la foi, il est notre chef de file et nous mènera au but. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a affronté la mort sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice. » Et il siège désormais à la droite de Dieu. Alléluia. Alors, moi je dis Alléluia parce que Jésus est dans le ciel de gloire, assis à la droite de Dieu. Il est mon chef de file, il est mon guide, il est votre guide. Et si je dis Alléluia, c'est que Jésus veut m'amener jusque auprès du trône de la gloire. Et en écho, j'entends cette parole de Jésus qui dit « Je m'en vais, mais je vais vous préparer une place ». Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Alors, c'est merveilleux, non, de relire, de repenser à cette parole de Jésus. Je vais vous préparer une place. Donc, c'est-à-dire, Seigneur, gloire à ton nom, merci, tu me prépares une place, tu me fais une place, je vais un jour entrer dans le ciel. Oui, mais il ne faut pas oublier quand même que pour acquérir cette place, il faut être rempli de sagesse. Ce n'est pas parce que je suis baptisé que je vais acquérir cette place. Il y a un cheminement à accomplir, il y a un chemin à faire avec les difficultés qu'on peut rencontrer, mais les joies aussi qu'il y a, ne les oublions pas, il y a des joies. Mais en fait, la sagesse c'est quoi ? Nous l'avons lu tout à l'heure. Je vais vous montrer ce qu'est un homme sage, dira Jésus. C'est celui qui bâtit sur le roc, c'est-à-dire sur sa personne et sur sa parole, et celui qui met ma parole en pratique. Amen. Si je ne mets pas sa parole en pratique, si je n'ai pas, comme nous l'avons lu pour Jésus, l'obéissance, pour Jésus ça a été l'obéissance d'aller jusqu'à la croix et de donner sa vie pour que nous soyons sauvés, nous, notre obéissance, c'est de lui rester fidèle, de mettre en pratique ce qu'il nous enseigne, et à partir de ce moment-là, nous rentrerons dans la présence de Dieu, et la place que le Seigneur Jésus nous a réservée nous sera donnée. Alléluia. Alors, là, je vais lire pas mal de versets, j'espère que vous m'en pardonnez. Il y a trois actions que le chrétien doit faire pour arriver au ciel. Je vais vous dire les trois actions. Premièrement, écoutez. Pas n'importe qui, pas n'importe quoi, mais écoutez le Seigneur quand il parle, par sa parole et par les dons spirituels. Écoutez. Deuxièmement, marchez. Oui. Et troisièmement, attaché. Trois verbes qui ont l'importance. Alors, d'abord, écouter. On peut écouter d'une manière distraite. Ce qui veut dire on va entendre, mais ça va passer au-dessus de la tête. On entend, c'est tout. On peut faire semblant d'écouter. Non ? Vous savez, des fois, il y a quelqu'un qui parle et après, il nous dit « Est-ce que tu as compris ?» Alors, nous, on dit « Oui !» Mais on n'a rien écouté du tout. On fait semblant. Et puis, on peut écouter avec des oreilles fermées. Non? Eh oui, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Connaissez tous ce dicton? Ouais, donc on peut écouter les oreilles fermées. En fait, on est là, j'espère que ce n'est pas le cas ce matin, on est là, on fait acte de présence, mais après tout ce qui se passe autour, je suis là. Et, mais il faut être là pour écouter et vivre la parole de Dieu, exalter le nom du Seigneur, le magnifier, le glorifier. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Et puis, on peut écouter avec un cœur fermé. Qu'est-ce que c'est un cœur fermé? C'est un cœur endurci. Et vous savez, quand vous le relirez à la maison, mais quand le Seigneur parle à ses disciples au sujet des terrains, il parlera des terrains qui sont durs, où la semence est semée, mais où elle ne peut pas produire parce qu'elle n'arrive pas à rentrer dans la terre. Et à partir du moment où la semence ne rentre pas dans la terre, il ne peut pas y avoir de fruits. Et la question qu'on peut se poser, mes frères et sœurs, en tout amour fraternel, c'est comment nous écoutons le Seigneur? Comment nous percevons et entendons sa voix? Et avons-nous un cœur qui reçoit le message pour faire sa volonté? Quand vous relisez l'Ancien Testament et que vous regardez la vie des rois, du peuple d'Israël, ben vous apercevrez qu'il y a des rois qui ont été déchus de leur trône. Pourquoi? La réponse est donnée dans les textes. Il dit parce que leur cœur s'est endurci. Alors oui, merci Seigneur, parce que tu mets dans notre cœur l'assurance du salut, mais je dirais comme l'apôtre Paul, dans ses épîtres, il dira que celui qui fait une course, déjà, il court pour gagner le prix. Donc il fait tout ce qui est faisable pour sa part, pour gagner le prix. Oui, non. Moi, si aujourd'hui on me dit tu vas faire 3 km à pied, en courant, ben, au bout de 500 mètres, je vais m'arrêter. Et encore, je me demande si je ne suis pas large là. Parce que je n'ai pas d'entraînement. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne m'entraîne pas. Et alors, quand on manque d'entraînement, on ne peut pas suivre. Et pour gagner le prix, eh bien, il faut s'entraîner. S'entraîner à quoi? À observer la parole de Dieu et à la vivre. Alléluia. Alors, quelques versets. Regardez ce qu'il est écrit dans Luc au chapitre 8, verset 18. Donc, je lis dans des textes bibliques différents. « Faites donc attention à la manière dont vous écoutez. » C'est écrit. Matthieu 17, 5, parole vivante, voilà je le dis, mais « Pendant qu'il parlait ainsi, une nuée lumineuse vint les envelopper, voici qu'une voix en sortit, disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, donc qui peut parler ainsi ?» C'est Dieu, le Père. « Et celui qui fait toute ma joie ou qui a toute mon affection, et Dieu dira, écoutez-le. » Écoutez-le. Est-ce qu'aujourd'hui on peut percevoir véritablement, mes frères et sœurs, cela devrait être le cas, la voix du Seigneur quand il parle? Il ne faut pas que la voix du Seigneur soit occultée par les soucis de la vie, par les temps que nous vivons. Parce que justement, dans ces temps-là, je dirais entre guillemets, plus que jamais, il faut entendre la voix du Seigneur pour recevoir de lui enseignement, encouragement, consolation et direction. Alléluia. Il ne faut pas se cacher ce que dit la parole de Dieu qui est vérité. Les temps d'aujourd'hui sont des temps mauvais. Mais si les ténèbres s'épaississent, la lumière divine éclaire toujours. Et cette lumière divine qui est Jésus-Christ est dans notre cœur. Et la parole de Dieu qui est lumière est aussi dans notre cœur. Alléluia. Et nous devons donc bien écouter la voix du Seigneur pour faire sa volonté. Ne devrions-nous pas dire, comme disait Ésaïe dans le chapitre 50, verset 4, « Le Seigneur Dieu m'a enseigné ce que je dois dire pour que je sache avec quels mots je soutiendrai celui qui faiblit. Chaque matin, il me réveille. Il me réapprend à écouter, comme doivent écouter les disciples. Je vous ai lu cette traduction à cause de la pensée que donne le traducteur de Paroles Vivantes. Réapprendre à écouter. Frères et sœurs, pensez pas que peut-être ça nous concerne, ça. Réapprendre à écouter. On écoute souvent les bruits de la terre. On écoute souvent des choses que nous ne devrions pas entendre, ni voir d'ailleurs. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de dire, justement, vis-à-vis des temps que nous vivons, « Seigneur, réapprends-moi à écouter, à bien écouter, et s'il le faut, Seigneur, réveille-moi le matin pour que je puisse écouter comme écoute un vrai disciple ta parole pour passer une bonne journée. » Et surtout, vous l'avez remarqué dans un autre texte, pour pouvoir parler à ceux qui ont besoin d'entendre. Alors parle-moi d'abord, avant que je ne dise ce que ceux qui sont devant moi doivent entendre de ta part. Sommes-nous de bons disciples? Je veux le croire. Mais ne devons-nous pas rechercher ce que dit la Bible, être un disciple parfait? Pourquoi je dis parfait? Parce que la parole de Dieu nous apprend à être semblable à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, je pense que personne ne le contestera. Jésus-Christ, c'est la perfection même. Alléluia. Et il est notre guide, il est notre exemple. Dans Parole vivante, et Jacques 1, 25, il dit encore ceci. Par contre, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite qui donne la vraie liberté, et s'il étudie assidûment, s'il vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché, il en arrive ainsi non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme ou une telle femme trouvera le bonheur en obéissant à la parole. Parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à être ainsi. Quoi qu'on peut encore aujourd'hui réfléchir et dire, est-ce que nous sommes dans cette position de disciples et de bons disciples? Parce que déjà dans le prophète Jérémie, chapitre 18, 15, il est dit ceci. L'Éternel parle au travers de Jérémie. « Pourtant, mon peuple m'a oublié. » J'espère que nous n'avons pas oublié notre Père Céleste. « Il offre des sacrifices à des dieux qui n'en sont pas. Ces dieux le font tomber sur sa route. Ils lui font quitter les chemins d'autrefois pour marcher sur une piste non tracée. » La Bible nous dit qu'il faut retourner aux anciens sentiers. Pour ma part, dans mon cœur, je dirais, j'ai une crainte. C'est que les temps modernes de notre terre, de notre monde, ne finissent si on ne veille pas à rentrer dans l'Église. Ce qui tuerait l'action du Saint-Esprit. Souvenez-vous, on est prière de Jésus, chant 17. Père, ils restent dans le monde, ils sont dans le monde, je ne serai plus pour les guider, mais ta parole est le Saint-Esprit, puisqu'il dira ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta vérité. Alors Seigneur, ceux que j'ai appelés, ceux que j'ai sauvés, comme nous aujourd'hui, Seigneur, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver du mal. Mais nous serons préservés du mal si nous n'ouvrons pas nos cœurs, nos pensées, nos agissements à ce que le monde corrompu peut apporter. La Bible dit « Séparez-vous !» Séparez-vous, séparez-vous de ce qui est impur et conservez-vous pur. Alors, je dirais entre parenthèses, tout n'est pas mauvais, mais ça devient de plus en plus mauvais. Il y a des habitudes que l'on ne peut pas adopter en tant qu'enfant de Dieu, ni même nommer et ni même permettre à rentrer dans l'Église. C'est à nous de veiller sur ces choses, chacun en particulier. Et dans Proverbes, au chapitre 1er, verset 33, il est dit « Mais si quelqu'un m'écoute, cette personne sera en sécurité, elle vivra tranquille et n'aura pas peur du malheur. » Tiens donc, déjà dans le Proverbe, il est écrit « N'aura pas peur du malheur », donc que le malheur existe. Le chrétien doit être confronté à des situations malheureuses. Oui, mais il est dit, si j'écoute la parole, si je la mets en pratique, alors je serai en sécurité, je vivrai tranquille et je n'aurai pas peur au temps du malheur parce que le Seigneur est ma force et ma victoire. Alléluia! Alors, restons confiants dans le Seigneur. Après écouter, il faut marcher. Quelques versets sur marcher. Je dirais marcher non pas n'importe comment. On ne peut pas marcher à l'aveugle. Parce que le premier obstacle, il sera pour nous. On est bien d'accord ? On ne peut pas marcher en tâtonnant quand on est chrétien. Mais en suivant et en fixant le bon guide qui est Jésus, et en le suivant, en étant les yeux fixés sur lui, nous sommes sûrs d'arriver au ciel. C'est-à-dire, comme Paul, au but. Je cours pour atteindre le but. Nous, on pourrait dire ce matin, sans déformer le sens, je marche, s'il faut, je cours pour atteindre moi aussi le but. Et ce but est un but éternel. Alléluia. Ainsi, dans Jean, au chapitre 8, verset 12, il est dit, un peu plus tard, Jésus parla en public et dit à ceux qui l'écoutaient, texte que vous connaissez les uns et les autres, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas comme à tâtons dans l'obscurité. Il aura la lumière qui mène à la vie. » Amen. Ce texte, je l'ai pris, bien sûr, dans Parole vivante, qui est explicatif. Je ne tâtonne pas. Et vous savez pourquoi je ne tâtonne pas en marchant sur le chemin ? Parce que je sais en qui j'ai cru. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors je sais en qui j'ai cru, je ne marche pas en tâtonnant, je suis le guide, j'écoute sa voix, je prends en compte ses conseils, je les mets en pratique, j'essaye. Si jamais je me loupe, j'ai toujours le recours de demander pardon au Seigneur, et il est fidèle et juste pour me pardonner, parce qu'il ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Le Seigneur cherche des cœurs sincères, des gens qui se consacrent à vivre et à faire sa volonté. Alléluia. Jean 12, 35, Jésus leur dit alors, « La lumière est encore parmi vous. » Et combien ce verset je trouve est d'actualité, c'est pour cela que je vous le lis. « La lumière est encore parmi vous, mais plus pour longtemps. Marchez tant qu'il fait clair pour ne pas vous laisser surprendre par l'obscurité. » Car celui qui marche dans l'obscurité ne sait pas où il va. Oui ou non ? Petit exemple, ça vous est arrivé de marcher dans l'obscurité ? Non ? Même chez vous. C'est étonnant, je prends un exemple. Vous êtes bien dans votre maison, c'est le soir, vous êtes bien dans votre maison, vous êtes familialement ou individuellement, là l'électricité brille partout, puis d'un seul coup, paf ! Plus de courant ! Alors là, ça commence un petit peu l'affolement. Où j'ai mis la lampe ? Où j'ai mis les bougies ? Non ? Vous réagissez pas comme ça, vous ? Alors, il faut que je me débrouille, surtout. Alors, on attend un petit peu. Alors, on se met en confiance quand on est plusieurs. Mais ça va pas durer. Mais ils vont arriver à le faire remarcher. Oui, mais ça dure. Alors, il y en a un des plus courageux qui se lève et qui dit « Je vais chercher !» Mais quand il va chercher, il y va. Comment ? En cherchant. En tâtonnant. Pourtant, il est de la maison. Mais il fait gaffe. Il dit « Ah, là, c'est la chaise. C'est par là-bas. Ah, là, c'est la porte. Donc, je suis sur le bon chemin. » Mais il tâtonne. Mais quand on a la lumière, si la lumière revient subitement, « Ah, ça y est ! La lumière est là. Je n'ai plus besoin de marcher en tâtonnant. » Oui, ben vous savez, aujourd'hui, la Bible nous dit que les lumières, les ténèbres s'épaississent. Mais elles s'épaississent pour les gens du dehors. Même si nous, on est conscients que ça s'épaissit. Mais nous, nous avons la lumière. Et il n'y a pas de coupure de courant avec la lumière qui vient d'en haut. Oui ou non? Hein? C'est un petit peu, permettez-moi notre exemple, c'est un petit peu, maintenant ça se voit moins, mais dans le temps, quand on avait un téléphone, des fois on voulait téléphoner, puis d'un seul coup ça coupait, c'était les coupures téléphoniques, à cause du temps, à cause de l'orage, à cause du vent qui cassait les fils électriques. C'était pénible, on ne pouvait plus rentrer en contact. Mais ça je vais vous dire, avec Dieu et avec Jésus, ça n'arrivera jamais. On est toujours en communion, en communication, et ça va dans des deux côtés. Je parle, il écoute, il me parle, j'écoute. Et je fais ce qu'il me dit. Et je suis toujours dans la lumière. Et je marche dans la lumière. Alléluia. Dans Galates chapitre 5, verset 16, il est dit, « Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et vous n'obéirez plus au désir de vos propres natures. » Alléluia. C'est pour cela qu'il y a parfois des versets très insistants, et notamment il dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est donné dans la parole de Dieu par une image, l'huile. On est d'accord? L'huile. S'il n'y a plus d'huile dans la lampe, il n'y a plus de lumière. C'est ainsi que les vierges folles ne sont pas rentrées dans la maison des noces. Elles n'avaient plus d'huile. Il a fallu qu'elles aillent en chercher de nuit. Alors imaginez-vous, de nuit, c'est un peu comme aujourd'hui. Hein. Il faut aller aux commerçants, il faut taper à la porte, il faut qu'ils se réveillent, il faut qu'ils descendent. Rendez compte, le temps perdu. Et le temps perdu fait que quand elles arrivent à la maison des noces, L'époux est déjà là, il est rentré, on a fermé les portes. Les sages, elles, sont rentrées parce qu'elles avaient toujours de l'huile, avec sa réserve d'huile. Mais elles, quand elles sont arrivées, elles ont tambouriné, ou encore, si vous voulez, elles ont toqué à la porte. On leur a dit, ah ben on ne vous connaît pas, hein. Vous ne pouvez pas rentrer, c'est fini. Alors comprenons bien cette parole. Et j'ajouterai un mot dans la pensée. Soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Soyez toujours une lumière pour ceux qui vous entourent. Soyez toujours de ceux et de celles qui marchent dans les pas de celui qui est la véritable lumière. Jésus a dit, je suis la lumière. Et s'il est en nous, nous serons toujours dans la lumière. Par la parole, par sa présence et par le Saint-Esprit. Alléluia, que Dieu nous aide. Et puis, si vous me laissez encore 5 minutes, je peux encore avoir 5 minutes de votre part pour vous parler d'être attaché. Quoique, je voudrais quand même citer encore 2 versets sur cette pensée de marcher. Philippiens chapitre 3, 16. « Cependant, dans les choses auxquelles nous sommes parvenus, et là, écoutez bien, marchons dans le même sentier. » J'ajouterai « marchons », parce que c'est écrit aussi dans la Bible, « d'un même pas ». Amen. On est d'accord? Il ne faut pas dire « amen » pour me faire plaisir. Hein. Vous dites « amen » parce que vous êtes convaincus de ce que vous entendez. Marchez d'un même pas. Vous savez, ce n'est pas facile de marcher d'un même pas. Je vais prendre encore un exemple. J'ai eu la joie d'avoir des enfants, maintenant j'ai des petits-enfants, et puis maintenant j'ai encore des arrière-petits-enfants. Je ne sais pas quand ça va s'arrêter, hein, mais quand j'avais des enfants, et quand ils ont commencé à marcher, eh bien, je ne marchais pas de mon pas normal quand j'étais avec eux. Je me mettais au pas de mon petit garçon ou de mes filles, au départ. Je ne vais pas leur faire « Allez, on y va !» J'aurais traîné un gamin. « Allez, oh, tu marches !» Non, je me mettais à son pas. Et quand, au fur et à mesure, il grandissait, au fur et à mesure, il allongeait son pas. Et il est arrivé un temps, quand il était ado, eh bien, on marchait au même pas. Non, quand vous lisez dans « marcher au même pas », entre adultes, vous pouvez marcher au même pas. Mais quand vous avez des nouveaux baptisés, ce sont des enfants nouveau-nés, spirituellement parlant. Il faut marcher à leur pas et leur expliquer comment on grandit dans la foi. Et non pas leur dire « tu comprends rien, tu sais pas ». Mais non, mon ami, prenez soin des uns des autres, prenez soin des agneaux avant qu'elles ne viennent des brebis. Alléluia. Et vous verrez que ça marchera du tonnerre. Et un autre verset dit ceci dans Éphésiens, pardon, chapitre 4, verset 1 à 3. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne, à l'appel dont vous avez été appelé, avec toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant l'un et l'autre dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Vous savez ce que je crois ? Je pense qu'il en est ainsi. Parmi nous et pour nous, l'Église de Dieu, de Jésus-Christ, doit être belle. Amen. Et si jamais il y a une écharde quelque part, demandez au Seigneur qu'il enlève. Et n'essayons pas toujours d'enlever, je dirais, l'écharde, parce que je ne veux pas reprendre le verset que vous connaissez tous, mais essayez d'enlever l'écharde qui est dans votre voisin, voisine, hein, dans sa vie spirituelle ou autre. Toujours en enlever. Mais moi, j'aime bien le Seigneur Jésus parce qu'il met les points sur les i et les barres sur les t. Non ? Et il va nous dire, mais attends, avant d'enlever la paille, commence par enlever la poutre. Où ça, Seigneur ? Dans ton œil, dans ta vie. Et là, je comprends que vous n'êtes peut-être pas enclin à dire un alléluia très fort. Amen. Merci, ma sœur. C'est un alléluia pour le Seigneur. C'est pas, faites pas plaisir au pasteur, faites plaisir au Seigneur quand vous dites alléluia, amen. C'est-à-dire que vous glorifiez le Seigneur et vous êtes d'accord avec ce que la Bible dit. Alléluia. Alors pour terminer, je vais arriver à attacher. Attacher dans un lien d'amour et d'unité. De ne former en un sens qu'un seul corps. Ce lien, c'est le lien de la paix, c'est le lien de l'amour, c'est le lien que pose le Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Et en lisant les Écritures et l'enseignement du Seigneur Jésus, je m'aperçois que le Seigneur Jésus tient à cette unité. Vous le saviez ? Et il y tient tellement qu'il a fait la prière à son Père. Quand Jésus a prié toujours dans la prière sacerdotale que vous connaissez, mais que je vous demande simplement de relire et de bien méditer, on s'aperçoit que le Seigneur Jésus, dans cette prière, a pensé à ses disciples de son temps, mais il a pensé à nous, aujourd'hui. Et dans cette prière, il dira notamment, Jean 17, 21, « Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est ici que c'est toi qui m'a envoyé. » Alléluia. Nous sommes ou nous devons être tous un. Amen. Si je voulais imaginer, je dirais en vous regardant, mais en individualité ou en collectivité, mais c'est mieux en individualité, je dirais quand je vois mon frère, pas de problème, hein, mon frère. Hein. J'ai quand je vois mon frère, c'est moi que je vois. Maintenant, quand je vois mon frère et que je me vois, est-ce que je suis assez fou, moi, aujourd'hui, pour me faire du mal, pour me détruire ? Je ne suis pas assez fou, moi. Moi, tous les matins, quand je m'en vais dans la glace, j'essaye de me coiffer. Je n'y arrive pas, mais ce n'est pas grave. Enfin, j'essaye d'être acceptable. Mais je ne suis pas devant la glace en train de me donner des gifles. De me flageller. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ce que je veux dire, quand je vois mon frère, je l'aime tel qu'il est, parce qu'il me ressemble. Et pourquoi me ressemble-t-il ? Parce qu'en lui, comme dans tous les autres, il y a la présence de Jésus, et que je suis dans la présence de Jésus, et que par Jésus, nous ne sommes qu'un. comme je suis qu'un avec vous, parce que vous êtes tous dans la présence de Jésus, et que je ne peux qu'aimer Jésus. Et si j'aime Jésus, je vous aime. Alléluia. Ainsi en est-il pour chacun d'entre vous et chacune d'entre vous. Pas de différence, un amour certain. Alléluia. N'allons pas dire, et là j'avais repris en sentant une certaine sœur qui disait, j'ai surpris cette conversation, en passant, une sœur qui était malade, fatiguée, elle se confiait, et je me suis un petit peu, quand j'entends malade et tout ça, je m'arrête un petit peu pour savoir. Et la sœur qui était de l'autre côté lui a dit, écoutez, si vous êtes malade, c'est que vous avez péché. Alors j'ai pris cette sœur, je lui ai expliqué. C'est comme ça qu'on aime son frère ou sa sœur ? Qu'est-ce que tu en sais, toi, si elle a péché ou pas ? Elle a peut-être chopé, excusez-moi l'expression, un virus, quelque chose comme ça. Mais au contraire, je dois lui dire, sœur, je compatis. Tu es ma sœur, tu es mon frère. Alors tu sais, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Alléluia. C'est ça que nous devons faire, mes frères et sœurs. Pas citer des exemples que je connais de très près et qui me sont arrivés cette semaine. Mais un garçon de 25 ans avait une tumeur cancéreuse à la tête. Son père m'a téléphoné, il habite à Saint-Malo, je l'ai connu, chrétien. Il m'a dit, voilà, mon fils doit se faire opérer d'une tumeur à la tête. Il avait déjà perdu toute sensation, perdait le langage. Il n'arrivait plus à mobiliser, à garder l'équilibre de ses membres, donc il était urgent de l'opérer. Et je dis, mon frère, on va prier avec vous. On va prier pour vous. Et on a prié, on a tenu le combat avec mon épouse pour ce garçon. Il a été opéré. La tumeur n'a pas pu être enlevée tout entièrement parce qu'elle touchait des points vitaux dans le cerveau. Et si on touchait ces parties-là, ça risquait de paralyser à jamais le garçon. Il devenait un légume. Alors on a enlevé une partie. Mais j'ai reçu des nouvelles la semaine passée, donc la semaine dernière, me disant que l'opération avait été, entre guillemets, réussie. Il a, au bout de 4 jours, il a retrouvé le langage de la parole. Il peut tenir des conversations, tenir des phrases. Il a retrouvé les membres et tenez-vous bien, il est rentré chez lui. Alléluia. Rendez compte, si j'avais dit à ce frère, c'est parce que tu as péché que ton fils il est malade. Mais où on va là? Prions les uns pour les autres et aimons-nous les uns les autres. Que nous soyons tous un, tous unis en Jésus-Christ et conduits par le Saint-Esprit. Je rappelle quelques versets pour terminer. 1 Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'unit au Seigneur dans son cœur devient une seule personne avec lui. Vous comprenez l'exemple que j'ai cité tout à l'heure. 1 Corinthiens 1, 10. Frères et sœurs chrétiens, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous demande, c'est Paul qui écrit cela, soyez tous d'accord entre vous, parmi vous, pas de division. Soyez très unis, ayez un même esprit et une même pensée. Amen. Vous savez, je dirai encore ceci entre parenthèses et je vais terminer. Mais la parole de Dieu nous dit et nous conseille de ne pas regarder à l'apparence. Parce que l'apparence nous trompe. Si je dois aimer mon frère ou ma sœur parce qu'il est parfait dans sa stature, je suis à côté de la plaque. Si je dois aimer mon frère ou ma sœur parce qu'elle a ou il a un langage distingué, je suis à côté de la plaque. Si je dois aimer mon frère ou ma sœur parce qu'il a une bonne situation et que je peux peut-être obtenir quelque chose, je suis à côté de la plaque. Jésus nous a aimés tels que nous étions. Oui ou non? Il n'y a pas de différence. Il nous aime d'un amour éternel. Alléluia. Moi, il y a un verset de la Bible qui m'a toujours plu, de l'apôtre Paul, et j'essaye de le vivre. Il dira, et là, il n'y a plus d'apparence, l'apôtre Paul, par ce saint esprit, il dit, regardez les autres. Vous savez la suite ? Comme étant au-dessus de vous-même. Dans le midi, on aurait dit, ça rabaisse le caquet de quelques-uns. Le caquet, c'est clac, 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 clac. Seigneur, apprends-nous à être semblables à toi et unis les uns aux autres. Je termine, Hébreux 2, 1. Puisque Dieu nous a parlé par son propre Fils, nous devons prendre d'autant plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus et nous y attacher fortement. Autrement, nous risquons d'être entraînés à la dérive par le courant de notre temps et de manquer le but. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est net? Et je termine, est-ce que c'est précis? Alors, je vais dire simplement, Seigneur, apprends-moi, ou réapprends-moi à être un bon disciple. Amen. Merci Seigneur, parce que dans ton amour, tu sais parler à notre cœur. Que nous ne soyons pas sourds à l'écoute de ta voix, mais que notre désir soit de marcher de progrès en progrès, et que ton nom soit béni pour ta patience et ta fidélité à l'égard de chacun. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole, parce que tu es celui qui parle à nos cœurs.